Le journal Loïc Barrière. Un avocat palestinien tué par l'armée israélienne lors d'une opération lancée à Naplouse en Cisjordanie occupée. Un accident de bus à Assouan a fait 10 morts et 14 blessés. Il y a 47 ans, débutée la guerre civile au Liban, entretien avec Qatar Abou Diab, chercheur et enseignant. Détaillant sa politique étrangère, Marine Le Pen a annoncé que l'octroi de visa aux Algériens dépendrait de plusieurs conditions. Selon elle, la normalisation des relations est d'abord dans l'intérêt de l'Algérie. L'extrême droite conduit toujours à l'abîme, affirme Pierre-Yves Bournazel, député de Paris et soutien d'Emmanuel Macron. Il sera l'invité de Pluriel à 19h. Enfin, le décès de Michel Bouquet, le comédien, était âgé de 96 ans. En Cisjordanie occupée, un avocat palestinien a été tué à Naplouse. Maître Mohamed Assaf se tenait en bordure de route après avoir emmené ses neveux à l'école lorsqu'il a été atteint par balle lors d'une opération de l'armée israélienne dans la ville. Les forces israéliennes disent rechercher des suspects liés aux attaques récentes à Tel Aviv. En Égypte, 10 personnes ont trouvé la mort dans un accident de bus à Assouan. Parmi les victimes, 4 Français, 1 Belge et 5 Égyptiens. 14 autres personnes ont été blessées, dont 8 Français. Le président tunisien a reçu une délégation du Parlement européen à Tunis. À cette occasion, Kais Saied a déclaré qu'il était déterminé à organiser un référendum et des élections libres et équitables. Kais Saied s'est également engagé à préserver l'unité, la continuité et la souveraineté de l'État, conformément à la volonté du peuple tunisien. C'était il y a 47 ans, le 13 avril 1975, le début de la guerre civile au Liban. Ce jour-là, un bus palestinien était attaqué dans un quartier chrétien près de Beyrouth, à Aïn el-Remane. Entretien avec le chercheur et enseignant Qatar Abou Diab.
C'est le 47e anniversaire de déclenchement de ce qu'on appelait la guerre civile au Liban. Et en fait, ça a été une guerre civile, mais aussi la guerre des autres sur le sol libanais. Ça a été une guerre de multiples dimensions. Et même si on prend la date du 13 avril 1975, il faut remonter le temps à 1969, lorsqu'on a conclu ce qu'on appelait l'accord de Caire entre l'État libanais et l'Organisation de la libération de Palestine. Cette irruption de l'action militaire palestinienne à partir du Liban et la réaction israélienne contre cette irruption et la déstabilisation à l'intérieur du Liban, tout ceci a été accentué par l'arrivée d'un pouvoir autoritaire hégémonique en Syrie, représenté par Hafez al-Assad, qui a décidé de faire du Liban les terrains de règlement de comptes et de l'expansion de l'influence de la Syrie. Tous ces problèmes avec les divisions internes ont fait exploser le Liban. J'ai été témoin de ces moments tragiques le 13 avril 1975. Les Libanais et les Palestiniens s'est déchiré, les Libanais entre eux s'est déchiré. Ça a été terrible. Ça a été parmi les moments cruels de l'histoire du Liban.
Une guerre qui s'est déroulée en plusieurs phases.
Une guerre qui s'est déroulée en plusieurs phases. On a appelé la première phase, la guerre de 2 ans, entre 1975 et 1976. Elle s'est conclue au lieu... il y a des gens qui ont imaginé qu'ils voulaient se libérer de la présence militaire palestinienne. Et il y avait la contre-présence qui a été plus lourde et plus cruelle pour l'avenir du Liban, c'était la présence militaire syrienne. La guerre des 2 ans, 1975-1976, s'est conclue par l'entrée en force, l'invasion de Liban par la Syrie, avec la complicité de la communauté internationale qui a, de ces moments-ci, abandonné réellement le Liban à son sort.
Et concernant les autres phases?
Oui, concernant les autres phases, après l'arrivée des troupes syriennes, la paix ne s'est pas installée au Liban. On a eu aussi une grande invasion israélienne en 1982 qui a abouti à la sortie de l'OLP du Liban. Et l'autre moment, le plus important, ça a été une tentative de sauvetage. Les accords de Taif en 1989, après tant de brèves aussi, mais on a espéré qu'en installant une autre république, que les choses s'améliorent, les choses ne se sont pas améliorées. Le Liban a payé le prix une autre fois avec l'assassinat de Rafik Hariri en 2005. Et maintenant, après tant d'années, on ne peut pas dire que le Liban est en paix réelle. Le Liban est un État à l'agonie. C'est un État maintenant qui a simplement les séquelles d'un véritable État. C'est un pays non souverain aujourd'hui. Les Hezbollah représentent un État dans l'État. L'hégémonie iranienne, elle est là. Après la hégémonie syrienne, l'hégémonie israélienne, on a eu la Pax iranienne. Et pour cela, il n'y a pas de réforme au Liban sans souveraineté. Toute illusion que les élections seraient les rendez-vous pour faire guérir le Liban, ça ne marchera pas. Le Liban a besoin vraiment d'une aide internationale soutenue pour les sauver et pour empêcher la disparition de l'État et de l'entité.
Alors, la communauté internationale mise notamment sur les élections législatives de mai prochain. Est-ce que ce sera, selon vous, un élément important pour le Liban?
Ce n'est pas ce qu'on appelait la potion magique, non. Ce n'est pas du tout ça. On a eu l'exemple de la Libye où ces élections ne se sont pas déroulées. On a un autre exemple en Irak où il y a une majorité qui est venue et qui n'arrive pas à former un gouvernement. Donc les élections avec cette domination de Hezbollah ne signifient rien. Même s'il y a des petits changements, ce serait dans les décors. Le problème du Liban n'est pas un problème de représentation démocratique. Le problème de la représentation démocratique vient en deuxième lieu. Si on ne rétablit pas la souveraineté du Liban et les attributs de l'État libanais, toute démarche de la communauté internationale reste vaine et sans sens.
Le Liban qui pâtit aujourd'hui de la guerre menée par la Russie en Ukraine, avec une insécurité alimentaire.
En plus, des surcroît avec tous ces problèmes, avec l'érosion économique et financière, avec la déstructuration et la grande immigration, le Liban donc vient d'être touché aussi par le problème d'insécurité. Et même ces gens qui gèrent les choses au Liban, ces gouvernements actuels, n'est pas capable même de gérer des situations comme ça. Vraiment, il faut vraiment mettre des experts internationaux auprès des gouvernements libanais pour observer tout, pour contrôler tout, afin que la famine ne revienne pas un jour au Liban.
Le chercheur et enseignant Qatar Abou Diab, il répondait à François-Xavier de Calonne. Et puis Washington alerte sur des problèmes importants au Liban en matière de droits de l'homme. Le département d'État américain dénonce notamment des ingérences politiques graves dans le domaine judiciaire, des violences et des restrictions de la liberté d'expression. Marine Le Pen a détaillé ce que serait sa politique étrangère si elle était élue présidente de la République. Le Liban est cher à mon cœur, a-t-elle dit, il constituera l'une de mes priorités. Elle a par ailleurs plaidé à la fois pour un rapprochement avec Israël et pour un État palestinien. La candidate d'extrême droite a déclaré vouloir renforcer la relation entre la France et le Maghreb, mais elle a conditionné tout octroi de visa aux Algériens à plusieurs éléments, notamment à la mise en œuvre effective du retour en Algérie de ses ressortissants expulsés. Selon elle, nous ne sommes pas dépendants des hydrocarbures algériens. Elle a ajouté que la normalisation des relations est surtout dans l'intérêt de l'Algérie. Marine Le Pen a enfin souhaité un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie après la guerre en Ukraine. L'invité de Pluriel à 19h est Pierre-Yves Bournazel, député de la 18e circonscription de Paris, membre du parti Horizon, extrait de cette émission.
Pour moi, et c'est l'enseignement de Jacques Chirac, évidemment, l'extrémisme politique, l'extrême droite, conduit toujours le pays à l'abîme. On l'a vu dans l'histoire de France. Moi, je suis pas là pour faire la leçon de morale. Chaque citoyen, en conscience, votera pour Emmanuel Macron, pour Marine Le Pen, blanc, ou n'ira pas voter. J'appelle, moi, à conscience de ce qu'est notre pacte républicain, de ce qu'est notre état de droit, de ce qu'est notre démocratie. Ce que je note, c'est que l'extrême droite a toujours les mêmes recettes. Même si Madame Le Pen, on l'a bien compris, a essayé un nouveau look politique, plus calme, plus détendu, feignant la sérénité. Et comme l'a très bien dit Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, au fond, pour le paraphraser, derrière le sourire de Marine Le Pen, il y a les idées aussi d'Éric Zemmour. Et moi, je suis très opposé au nationalisme, parce que le nationalisme, c'est toujours chercher des boucs émissaires. C'est toujours monter des citoyens les uns contre les autres en fonction de ce qu'ils sont, de leur origine, de leurs conditions sociales, de leur religion ou non. Et je crois que pour faire nation, pour faire société, il faut rassembler, il faut fédérer. Notre pays connaît beaucoup de fractures depuis de nombreuses décennies, des fractures économiques, sociales, des fractures territoriales. Et moi, je suis plutôt pour recoudre, je suis plutôt pour apaiser, pour construire des solutions. Nous sommes face à des immenses défis devant nous, le défi climatique, le défi de la guerre sur le sol européen en Ukraine, le défi de la montée en puissance de régimes autoritaires en Europe, on le voit en Hongrie, en Pologne et dans le monde, la conquête de la Chine. Il faut être en capacité d'inventer notre propre modèle de développement en France et en Europe, et ça ne peut se faire que sur des règles saines, démocratiques et d'état de droit. Or, Madame Le Pen, c'est une réalité, remet par sa politique, que ce soit sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice, des pans entiers de notre état de droit. Elle a tendance souvent à mettre à égalité des choses qui ne sont pas à égalité.
Par exemple ?
Je vous donne un exemple sur les sujets internationaux. Moi, je suis pour que la France et l'Europe soient indépendants. Je ne suis pas pour qu'on soit inféodé aux États-Unis. Et je ne suis pas pour qu'on soit inféodé à la Russie, à qui que ce soit. Je veux qu'on dessine notre propre stratégie, notre propre politique étrangère, notre propre politique de défense commune. En revanche, je ne confonds pas les régimes politiques les uns avec les autres. Je ne confonds pas une démocratie avec une autocratie. Je ne confonds pas une démocratie dans laquelle les opposants politiques sont libres de s'exprimer et une autocratie dans laquelle les opposants politiques sont enfermés.
Vous faites clairement allusion à la Russie.
À la Russie, oui. Madame Le Pen ne s'est jamais cachée soutenir Monsieur Poutine et avoir construit une alliance politique avec lui. Et Monsieur Poutine, déjà à l'époque, était celui qui faisait arrêter ou condamner des opposants politiques ou des journalistes. C'est pas l'état de droit, c'est pas la démocratie, c'est pas la liberté d'opinion. Et donc, moi, je crois que tout ne se vaut pas. Et je considère que, évidemment, l'extrême droite, incarnée par Madame Le Pen, serait un danger pour notre démocratie, notre état de droit. Mais je m'adresse à l'intelligence collective, à l'éveil des consciences. Je dis ce que je crois, ce que je pense, et puis à chaque Français de se faire son opinion. Et puis surtout, je crois que Madame Le Pen a un projet économique et social qui ne répondrait pas aux besoins des Français qui sont les plus en difficulté. Nous traversons des crises majeures, extrêmement difficiles et douloureuses. Nous avons traversé une crise sanitaire qui a engendré une crise économique et sociale sans précédent depuis 1929. Si on reprend tout ce qu'a dit Madame Le Pen depuis 2020, Yaka, Faucon, elle s'est surtout beaucoup contredite et on n'a pas compris quel était le cap et quelles auraient été les décisions prises dans une crise dure, spectaculaire. En revanche, ce que je sais, c'est qu'Emmanuel Macron, avec ses qualités et ses défauts, ses réussites et ses échecs, a pris les bonnes décisions qui s'imposaient pour protéger l'emploi des Français, le salariat, maintenir le tissu économique, notamment de TPE, PME, au moment où tout aurait pu s'écrouler. D'ailleurs, je pose une question très simple à nos concitoyens. Quel est l'autre pays au monde Je dis bien, quel est l'autre pays au monde qui a le mieux protégé ses concitoyens de la crise économique et sociale? Est-ce qu'il y a un autre pays au monde qui a mieux fait pour protéger, alors que tout s'était arrêté, l'emploi et les entreprises? Il n'y en a pas. Alors peut-être que tout n'a pas été bien fait, peut-être qu'il y a eu des trous dans la raquette, et c'est bien normal de pouvoir le commenter et de corriger. Mais l'essentiel a été tenu. C'est ça aussi une politique sociale, c'est quand tout peut s'écrouler, eh bien on prend les décisions pour éviter que ça s'écroule. C'est pour ça que nous sommes le pays européen qui repart avec le plus fort taux de croissance, avec un chômage qui diminue. Mais pour autant, il reste beaucoup à faire. Et on ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à amplifier, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Les fins de mois sont difficiles dès le début des mois, si j'ose dire.
Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, il est l'invité de Pluriel à 19h. Le décès de Michel Bouquet, le comédien, était âgé de 96 ans. Au cinéma, il avait tourné avec Henri Verneuil, François Truffaut ou encore Claude Chabrol. Mais il était surtout resté fidèle au théâtre, interprétant les plus grands rôles de Ionesco à Beckett en passant par Molière. Emmanuel Macron lui a rendu hommage en soulignant qu'en 70 ans de carrière, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité. Deux hommes en garde à vue après la mort de Jérémy Cohen à Bobigny. Le jeune homme de confession juive et porteur d'un handicap avait trouvé la mort le 16 février percuté par un tramway alors qu'il venait d'être agressé par plusieurs personnes. Une enquête a été lancée pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort. Cette édition est terminée. N'oubliez pas les prières de Tarawih à partir de minuit sur Radio Orient. Retrouvez nos émissions et les journaux sur radioorient.com. Excellente soirée à tous.